Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, avant Culture Sport, on va parler des résultats sportifs du week-end, les résultats des clubs charentais et des athlètes également charentais. Et on va commencer par le football avec l'ACFC qui recevait Chamalières en match retard au stade Le Bon. Résultat nul, un partout pour les Angoumoisins qui avaient ouvert le score après 60 secondes de jeu. Grâce à Benjamin Barque qui avait suivi la belle frappe de Noah Marchessault qui avait heurté la transversale, Ben Barque a suivi et a marqué 1-0 pour la CFC dès la première minute. Et malheureusement en deuxième mi-temps, eh bien c'est sur une erreur défensive individuelle que Chamalières va revenir par l'intermédiaire d'Embina qui obtient un penalty et que l'attaquant de Chamalières transforme lui-même. Donc voilà, un match nul plutôt frustrant puisque en fin de match, Guirassy et Gauthény ont l'occasion de marquer le but du 2-1, mais finalement, eh bien, la CFC devra se contenter du point du nul. Dans l'autre résultat du week-end, Les Herbiers a gagné 6-0 contre Vierzon, ce qui fait que Les Herbiers prend la tête du championnat. Angoulême est 6ème avec 25 points et a désormais rattrapé donc son match retard. 25 points, c'est 4 points d'avance sur la zone rouge et 3 points d'avance sur Trélifac qui est 11ème, sachant qu'il y aura quelques 11e qui descendront également en National 3. Prochain rendez-vous pour les Angoumoisins, déplacement chez la Lanterne Rouge Vierzon le week-end prochain en espérant que la CFC s'impose face à une équipe qui vient de prendre 6-0. En Régional 1, Cognac jouait samedi soir contre Lormont, résultat 0-0, dommage pour Cognac qui a évolué pendant plus de 70 minutes à 11 contre 10, mais les hommes d'Alvin Henry n'ont pas su trouver la solution. La réserve de la CFC jouait le lendemain, donc hier contre Mussidan, victoire 2-0, un succès qui a mis longtemps à se dessiner puisque les buts de Macan et de Lanier sont arrivés en fin de rencontre, mais en tout cas c'est une belle opération pour la réserve d'Angoulême puisque toutes les autres équipes pour le maintien n'ont pas gagné. La CFC donc est 8ème avec 19 points et Cognac est 9ème avec 17 points, donc au final les deux équipes sont encore en pleine course pour le maintien, mais bonne opération pour la réserve angoumoisine qui recevra le week-end prochain Saint-Médard-des-Rangs, donc un match encore très important pour la CFC. Cognac ira du côté de Mérignac-Arlac, un déplacement compliqué pour les Cognacés. En Régional 2, eh bien le Roi poursuit sa Dolce Vita. Le Roi s'impose 2-0 contre Beaumont-Saint-Cyr. C'est la 4ème victoire de suite pour les Métallos qui sont 4ème au classement. Beaumont-Saint-Cyr était 3ème, donc c'est vraiment une belle performance. Et surtout le Roi prend de l'avance par rapport aux équipes qui vont jouer le maintien. En poule B, plus compliqué pour les Charentais puisque Cognac s'incline 7-3 contre Dompierre-Saint-Saul. Merpin fait un partout contre Fontaine-le-Comte et Charente-Limousine fait 0-0 contre Périgny. Au classement, Cognac est dernier avec 6 points. Merpin remonte quand même 8ème avec 14 points et Charente-Limousine est 5ème avec 21 points. En poule D, défaite de Cireuil 2-0 à la Bouscatèze et défaite également de Jarnac contre Médoc Atlantique. Compliqué pour Jarnac qui est 11ème avant-dernier avec 10 points. Cireuil est 7ème avec 18 points, donc attention, la bataille pour le maintien bat son plein en Régional 2. En Régional 3, eh bien en poule C, c'est la grosse déception du week-end, c'est Ruffec qui s'incline à Husson du Poitou 2-1. Ruffec qui perchait la Lanterne Rouge, donc qui fait une très mauvaise opération au classement, mais il reste quand même toujours 3ème. Confolant avec notre invité du jour Vincent Villedieu qui devait jouer contre Saint-Benoît, n'a pas joué. Le match a été reporté à début mars, donc pour Confolant, c'est une 5ème place au classement. En poule F, victoire de Saint-Anix contre Saint-Junien 5-0, défaite de Soyaux à Coulommiers-Chamiers 2-1, victoire de Ruel à Puymoyen 3-0, et enfin match nul entre La Roche-Rivière et Vindel, un partout. Saint-Anix est toujours en tête avec 34 points, c'est 4 points d'avance sur Coulommiers-Chamiers. Vindel est 5ème avec 18 points, Soyaux est 6ème avec 16 points, La Roche-Rivière est 8ème avec 14 points, Puymoyen est 9ème avec 14 points, 10ème Ruel avec 13 points. Enfin, en poule G, la balade continue pour l'Alliance 3B qui s'impose 5-1 contre l'Aviron Boutonnet. L'Alliance 3B est toujours en tête avec 37 points. C'est 12 points d'avance sur le Racing Club de Bordeaux. En district, je vais donner les résultats de la D1 avec Moutier et Bassot qui font 1 partout. Saint-Michel s'impose à Roulet 2-1. Champigny s'impose à Brie 3-2. Merpin et Leroy font 1 partout. L'Alliance 3B bat les Portugais 1-0. Et enfin, les Sacs s'imposent à la Couronne 7-1. Au classement, Saint-Michel est toujours en tête avec 29 points. Deuxième, Champigny, 27 points. En bas de tableau, Roulé est avant-dernier avec 9 points. Les Portugais sont derniers avec 8 points. En D2, en poule A, Victoire de Saint-Aix 1-0 contre Aigre, victoire de Verdi 4-2 contre Mornac, match nul pardon entre Chasseneuil et Bélair 2 partout, victoire de Charente-Limousine à Ruffec 2-1, match nul entre Montbron et Sireuil 1 partout. Ça veut dire que les leaders de cette poule n'ont pas gagné. Premier au classement Sireuil avec 30 points, deuxième Chasseneuil 25 points et troisième Verdi 19 points à égalité avec Mornac. En poule B, Sud-Charente s'impose 7-0 contre Chazelles, Montmoreau s'impose à Nersac 2-0, Jarnac s'impose à Champigny 2-1, Ruel et Saint-Séverin font 1 partout, Saint-Brice et Grande-Champagne font 1 partout et victoire de Linard 8-0 contre Châteauneuf au classement. Premier Linard 28 points, deuxième les Grande-Champagne 28 points, troisième Jarnac 27 points, quatrième Saint-Séverin 24 points. Châteauneuf est dernier avec 4 points devant Chazelles 6 points. On va rappeler la victoire du SA15 du côté de Carcassonne, une victoire hyper importante pour les Angoumoisins qui s'imposent 20 à 15, réception de Montauban vendredi prochain. En national, victoire de Blagnac contre Cognac 45 à 23, malgré un bon début de match des Cognacés. Eh bien, Blagnac passe 45 points à l'UCS. En fédéral, une victoire de Barbezieux 22 à 15 contre Mauléon. Belle victoire de prestige pour une équipe qui cherche toujours son maintien, donc plutôt une bonne nouvelle pour l'UBJ. En handball, défaite malheureusement de l'ETEC qui est tombé dans le piège de Bouguenay. Défaite 37-35. L'ETEC est malgré tout toujours deuxième au classement, mais l'écart se creuse avec Bruges, puisque Bruges compte désormais 3 points d'avance sur l'ETEC. En National 1 féminine, on va parler de la victoire de l'ACH hein, à domicile contre Borde. Victoire 22 à 19, donc une victoire importante pour les Angoumoisines. Dans le même temps, Cognac s'incline à domicile contre Côte Basque 26-13. Au classement, Angoulême est 5e avec 32 points. Cognac est dernier avec 15 points. On va enfin parler de cyclisme avec les plages vendéennes. Donc c'est une série de courses qui se déroule en Vendée avec un joli podium pour Louis Lapierre. C'est son deuxième podium de la saison. Et au final, Louis Lapierre termine 6e du classement général avec 19 secondes de retard sur le vainqueur des plages vendéennes. Donc c'est Antoine Devanne. Des bons résultats pour Louis Lapierre, le sprinter du top 16. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux résultats et en attendant, on va écouter l'interview de Vincent Villedieu, l'entraîneur de Confolens. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Attitude 98.3, 90.7. www.attitudefm.com. Vous êtes bien sur Attitude et c'est votre émission Culture Sport, chaque lundi 19h, 20h30. C'est votre émission des sports dédiée au foot, au rugby, à tous les sports du Poitou-Charentes. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Villedieu. Bonjour Vincent, bienvenue.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre émission. Nous accueillons Christian aussi qui est là aujourd'hui. Bonjour Christian.
Bonjour Didier.
Comment vas-tu? Comme un grand.
Très bien, on va parler de foot, donc je suis très heureux.
Christian, je te laisse le soin de lancer le débat et de poser les premières questions à Vincent.
Oui, déjà très heureux d'accueillir Vincent dans notre émission. C'est vrai que c'est un interlocuteur de qualité que j'ai appris à découvrir cet été en lui demandant les mutations du côté de Confolens. On rappelle donc que le FC Confolens, eh bien, c'est un promu de D1 qui monte en R3. On va pas forcément reparler de cette super belle saison, la saison dernière où vous étiez vraiment un coffre-fort. Mais avant, j'aimerais forcément parler du match du week-end dernier, qui a été un match en retard contre l'autre Charentais de la poule Ruffec. C'est le sujet d'actualité. Un match face à l'un des quatre premiers qui ont pris beaucoup d'avance. Et finalement, vous menez 1-0 et vous perdez 2-1, mais c'est un match où vous passez pas loin de quelque chose de beau.
Oui, on passe pas loin de quelque chose, mais bon, globalement et en étant lucide, c'est une équipe qui nous est supérieure et le résultat est pas forcément usurpé. Après, c'est le scénario quand on mène pendant 1h15 ou un peu plus d'une heure, du moins. On commence à croire que on peut sortir quelque chose. Et puis malheureusement, physiquement, on a baissé de pied et leur supériorité. Ils ont égalisé à un quart d'heure de la fin et derrière, c'était difficile pour nous de pouvoir tenir le choc. Et voilà, ils ont logiquement, je dirais, marqué un deuxième but en fin de match et voilà. Donc ça montre toute la différence qu'il y a entre ces équipes, entre les quatre premières équipes et puis les huit autres, hein, puisque je considère que dans ce championnat il y a deux championnats en fait.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes en tête du deuxième championnat puisque vous êtes cinquième au classement.
C'est ça exactement. Mais bon, ça reste très serré. Donc, et compte tenu du nombre de descentes qu'il y aura, il faut prendre des points et il faut encore en prendre un certain nombre pour pouvoir rester au niveau régional la saison prochaine. C'est l'objectif premier du club, hein, de toute façon.
J'avais posé la même question à Yannick Hilleux lorsque j'ai appris que finalement qu'il était requalifié en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que pour toi ça a été embêtant finalement d'apprendre assez tardivement que Ruffec avait gagné le match sur tapis vert et donc ne vous affrontez pas le week-end d'avant, parce que j'imagine que en plus vous sortiez d'une belle victoire contre Limoges Vigenal et j'imagine que vous aviez préparé votre semaine pour jouer contre Ruffec. Est-ce que c'était embêtant pour toi d'apprendre le mercredi
C'était embêtant de le savoir très tardivement. Faut savoir que la coupe avait eu lieu quand même 15 jours avant, donc la décision ils auraient pu la prendre plus tôt. On avait relancé une bonne dynamique en gagnant à Limoges et ça a été embêtant de le savoir 48 heures avant le match, avant la rencontre prévue du 4-5 février. Donc ça c'était un problème. Et c'est le deuxième problème, c'est de reprogrammer dès la semaine suivante une rencontre alors qu'on est en vacances scolaires et qu'il y avait toute latitude à repousser au mois d'avril ce genre de match, parce qu'on peut pas jouer avec toutes nos forces, parce qu'il y a des gens qui prennent des vacances, on est à un petit niveau amateur et malheureusement les gens de la ligue en tiennent pas forcément compte.
C'est vrai qu'au final c'était une date qui était vacante, donc les joueurs profitent un peu du week-end libre qu'ils ont et c'est compliqué d'annuler quand on...
Alors attention, hein, quand je dis ça, Ruffec avait certainement la même problématique. On pense toujours en premier lieu à nous pour nous ça a été un problème. Et moi je crois que il serait temps que tous ces gens qui décident des organisations et des compétitions au niveau régional réfléchissent un petit peu à tout ça.
Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est assez paradoxal de vouloir tout faire jouer en janvier ou en février. Quand on arrive dans les bons jours d'avril, bon certes en avril il y a aussi des vacances scolaires, mais finalement c'est lorsque les bons jours arrivent qu'il y a des week-ends vacants.
Exactement. C'est plus facile, les gens aujourd'hui ou les jeunes qui jouent au foot aujourd'hui partent plus facilement au ski qu'ils ne partent faire du vélo à l'île d'Oléron au mois d'avril. Donc on avait plus de possibilités. Ça aurait été, à mon avis, plus judicieux de reporter ces matchs à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide.
Oui.
Et il est hors de question que j'aille un jour participer à tout ça. Mais je pense qu'il devrait y avoir une réflexion quand même là-dessus.
Puis c'est vrai qu'on a toujours chaque année. Moi, depuis que je m'intéresse vraiment au foot régional, donc ce qui fait presque une décennie maintenant, j'avais souvent le débat avec un de tes prédécesseurs, Pascal Chavaroche, on parlait toujours du calendrier, comme quoi il fallait laisser une trêve plus longue. Enfin, au final, il y a toujours des débats chaque année sur les calendriers, mais c'est compliqué de faire les calendriers.
Mais c'est très difficile, et aujourd'hui, il y a aussi d'autres problématiques, avec l'augmentation des coûts de l'énergie et les interdictions de certaines communes de jouer en nocturne. On est confronté à ce problème-là, même si pour ce samedi, la mairie nous a gentiment donné la possibilité de jouer contre Saint-Benoît samedi soir, puisque nous jouerons samedi soir contre Saint-Benoît.
D'accord.
Ça, c'est aussi une problématique. Donc, et pour organiser les compétitions, ça reste quand même pas toujours très simple. Il faut le dire, parce qu'il n'y a pas toujours les infrastructures. Après, il n'y a pas toujours les arbitres. Il y a beaucoup de problématiques dans l'organisation des compétitions pour notre sport aujourd'hui.
Bon, c'était justement une question que je voulais te poser un peu plus tard dans l'émission, mais on va aborder le sujet maintenant. Le fait de jouer désormais vos matchs le dimanche après-midi, c'est vrai que Charente Libre avait consacré d'ailleurs un article sur les villes qui étaient vraiment impactées par le coût énergétique et qui du coup n'autorisaient plus leurs équipes à jouer le samedi soir. Déjà pour toi, est-ce qu'il y a une grosse différence entre jouer le samedi soir et le dimanche après-midi ?
C'est qu'il y a une grosse différence parce que le dimanche après-midi, mais moi je fais partie de l'ancienne génération, le dimanche après-midi, il y a eu le samedi soir avant. Et avec tout ce que ça comporte chez les jeunes, l'envie de s'amuser, de vivre une vie d'un garçon de 25 ans, puisque c'est la moyenne d'âge que j'ai à Confolens. Voilà, les samedis soirs, il y a les sorties en boîte de nuit, il y a les ceci, il y a les cela, et le dimanche, on n'est pas toujours parfaitement en condition optimale pour donner le meilleur soi. Donc, j'aime pas trop jouer le dimanche après-midi.
Mais à part sur les déplacements où t'es contraint de jouer le dimanche après-midi quand il n'y a pas d'éclairage.
C'est ça. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais moi, je préfère jouer le samedi soir. Je trouve que les joueurs sont plus aptes à être en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes le samedi soir que le dimanche après-midi. Mais bon, ça reste un avis personnel.
Oui, je crois que tu as raison, Vincent, c'est beaucoup plus convivial le samedi soir.
Ouais, non, mais il y a plusieurs problématiques, parce qu'il y a la problématique sportive, moi, où je préfère jouer évidemment le samedi soir, et il y a aussi la problématique économique. Alors, quand je dis économique, attention, c'est juste, je parle juste de faire tourner une buvette, des sandwichs, voilà, et faire gagner un petit peu d'argent à l'association le dimanche après-midi. Les gens vont pas forcément manger une saucisse avec une frite, ils vont pas forcément boire un coca ou une bière ou deux bières, etc. C'est plus facile le samedi soir, je trouve.
Oui, et puis il y a aussi l'avantage le samedi soir finalement de pouvoir tous rester derrière au clubhouse et puis de passer.
Exactement, voilà, et profiter du temps. Moi, j'ai beaucoup de joueurs qui sont ou étudiants ou qui travaillent ailleurs qu'à Confolens, puisqu'on est quand même dans une petite zone qui est quand même excentrée des plus grandes villes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême. Donc moi, les dimanches soirs, les joueurs, pour certains d'entre eux, ou Bordeaux même, puisque j'ai des étudiants dont un auquel je pense qui est sur Bordeaux, on finit le match, ils se douchent, ils ont juste le temps pour passer à la maison et puis ils prennent la route pour une heure et demie ou deux heures pour ceux qui vont à Bordeaux. Donc voilà, toute cette partie conviviale, eh ben on l'a un peu moins.
Pour en revenir sur le match de Ruffet, qu'est-ce qui justement fait la différence entre vous et eux? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient des expériences parce qu'ils étaient en R2 l'an passé, donc ils ont peut-être des expériences?
Oui, il y a certainement ce vécu-là, et il y a globalement une qualité supérieure chez eux. Je trouvais que c'était une équipe qui était bien organisée, qui avait de bons principes de jeu, et qui avait des individualités capables de faire la différence à tout moment. Je pense à leur attaquant de pointe, Condé, là, que je connais, qui jouait à Basso-Angoulême l'année dernière.
Tout à fait, ouais. Que vous ayez croisé, du coup, l'an passé.
Exactement. Ils ont un ou deux très bons joueurs au milieu de terrain. Globalement, c'est une équipe qui est assez complète pour le niveau. Et donc voilà, c'est ce qui nous manque, c'est peut-être ce vécu à ce niveau-là. Et puis peut-être la petite part de qualité qui est certainement supérieure chez eux que chez nous.
D'ailleurs, hasard du calendrier, on recevait la semaine dernière à cette même place Yohann Ekieu, l'entraîneur de Ruffec, avec qui on avait forcément parlé de son parcours en Coupe de Nouvelle-Aquitaine et puis du championnat, où il y a encore des belles choses à jouer pour eux. Et d'ailleurs, Yohann nous a laissé un petit message pour toi, donc on l'écoute et après on te laisse réagir.
Bah que si vraiment il aime le département de la Charente, s'il avait la bonne idée de battre Limoges, ça serait super pour nous.
Mais c'est ce qu'on espère. Nous que ce soit Limoges, enfin moi particulièrement, que ce soit Limoges ou Ruffec, que ça a pas d'importance pour moi.
Oui, tout à fait. Et
j'ai d'animosité envers personne. J'ai même plutôt de l'amitié. J'éprouve de l'amitié pour Yohann parce que c'est quelqu'un que je connais. On a passé notre brevet d'état ensemble il y a une quinzaine d'années. Et donc, j'ai pas de préférence particulière, mais qui se rassure, si on peut faire un résultat à Limoges, on le fera. Au même titre que si on avait pu faire un résultat dimanche, on l'aurait fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
On rappelle que toi, tu es originaire du 87, que tu vis d'ailleurs à Oradour-sur-Glane. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait franchir la frontière pour venir chez nous?
Eh bien, j'étais entraîneur adjoint de Stéphane Roussy à Fétia en R1, et le club m'avait proposé de m'impliquer également avec les jeunes. J'étais pas très très forcément motivé à cette idée-là, et j'ai eu un appel au mois de mai 2020 de Florent Gémeau, le président, que je connaissais un petit peu parce que son fils était passé par le Limoges FC à l'époque où j'y étais. Et voilà, il m'a expliqué qu'ils étaient en recherche d'un entraîneur, puisque Stéphane Chambre avait décidé de passer la main. Et il m'appelait comme ça à tout hasard. Et j'ai été sensible à son coup de fil. J'ai dit, on s'est vu dès le lendemain soir avec l'ensemble des dirigeants. Et ça s'est fait en fait très rapidement parce que moi j'ai senti des gens impliqués, des gens motivés et puis surtout des gens bien et je regrette absolument pas le fait de me retrouver à Confolens parce que partager notre passion avec des gens d'une grande gentillesse, de beaucoup d'implication pour le bon fonctionnement du club, moi c'est un plaisir hein, donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait.
D'accord, donc adjoint de Stéphane Roussy d'ailleurs que j'avais croisé en début de saison avec Chrétien à Le Bon contre la réserve de la CFC. Ouais. Du coup, est-ce que c'est ta première affectation chez une équipe Fagnon ?
Non, puisque moi j'ai arrêté de jouer en 2003. Donc, j'étais D'accord. assez jeune, hein, j'avais 31 ans quand j'ai arrêté de jouer. Je jouais au Radour sur Glane qu'on avait fait remonter jusqu'en promotion d'honneur. On avait une bonne bande de copains avec qui on avait joué à un niveau supérieur à Yves. Et Aria Crancon notamment. Et j'ai arrêté cette époque-là sur une quatrième Coupe de l'Audienne, parce que j'ai gagné quatre fois la Coupe de l'Audienne avec Oradour, hein, puisque Oradour a fait partie des fleurons hein, des clubs dans le département dans les années 80-90. Et je suis parti tout de suite entraîner à Riac-Rancon, qui était à l'époque en division d'honneur régionale. Il y avait plus de facilité, même si on n'était pas diplômé, à pouvoir entraîner.
Ah donc c'était toi sur le banc lorsque... Alors moi j'ai un vague souvenir de Riac-Rancon qui joue contre la CFC en Coupe du Centre-Ouest, c'était en 2005-2006.
Alors 2005-2006, je venais de partir. J'ai fait 2003-2005, moi à Riac, avec Philippe Bourg. C'était Philippe Bourg qui était sur le banc à Riac, qui est mon ami. Hein. Et donc voilà, on a commencé à entraîner tous les deux. Et moi, en 2005, je suis revenu entraîner au Radour.
Donc au final, beaucoup de clubs autour de Limoges. Même
ah
Limoges,
oui. Et puis Riac-Rancon, Radour sur Glane, j'y suis resté 5 ans hein, comme entraîneur. Après, j'ai arrêté un an d'entraîner. J'ai pris la vice-présidence du club et ensuite je suis parti entraîner Lafarge en promotion d'honneur de Lafarge Limoges 2011-2014 et puis après j'ai été muté professionnellement sur la communauté de communes donc j'avais pas trop de possibilité d'entraîner en 2014 donc j'ai structuré l'école de foot à Saint-Junien pendant deux saisons.
D'accord.
Et là, en 2016, je suis parti à Limoges puisque Dragan Zvetkovic était arrivé et j'ai été sollicité. J'ai pris les U19 avec qui on a fait un 32e de finale Gambardella. Et l'année d'après, la R4 et les U17 nationaux. C'était très compliqué puisque il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Les déplacements, c'était une galère. C'était très compliqué. Il y avait un groupe qui était quand même très limité pour jouer au niveau national. Donc voilà. Et ensuite, je suis parti à Fethiye pendant deux saisons.
Donc l'époque Dragan Zetkovic et l'époque où Limoges remonte en National 2, si je ne me trompe pas.
Limoges est remonté de National 3 en National 2.
Et, ouais, et puis après, ils font le maintien, ce qui leur permet de faire qu'une descente au lieu de deux.
C'est ça. Et j'ai eu cette chance, moi, de partager des moments avec Dragan, parce que c'est un grand professionnel. Alors, je ne sais pas s'il a laissé un bon souvenir en Charente, notamment à Soyaux. Je ne sais pas comment ça s'est passé.
Je ne sais pas. Vous répondez. On l'a pas trop vu sur la fin de saison, on va dire, parce qu'il avait
opéré. C'est ça. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, c'est-à-dire que j'intervenais sur deux séances avec lui par semaine avec la Nationale 2, le lundi et le jeudi. Et il avait été suspendu à un match, je sais plus où, et à Romorantin, il m'avait demandé, donc j'étais sur le banc comme entraîneur principal de la Nationale 2, donc j'ai au moins, j'ai une feuille de match avec mon nom comme entraîneur principal d'une Nationale 2. Voilà.
Ça en plus, Romorantin, c'est pas le plus petit stade et c'est pas la plus.
Non, c'était un bon moment. Voilà.
D'ailleurs, quel est ton regard sur le Limoges FC qui, du coup, n'existe plus, qui a fait, des pots de bilan, donc ils étaient en R1 il y a 3 ans, je dirais.
C'est ça. Moi, je suis malheureux de ce qui se passe à Limoges. Moi, j'y ai joué de 85 à 88 en jeune, et je suis revenu entraîner de 2016 à 2018. J'ai l'impression, 30 ans plus tard, que le club était géré de la même façon que dans les années 80, c'est-à-dire n'importe comment. On est malheureux, il y a eu 3 dépôts de bilan quand même en 30 ans à Limoges, hein. C'est quand même terrible. Et voilà, donc je suis là, je serais content que le foot redémarre dans ce département. Je considère que le Limousin est plus, et même si on globalise, hein, la Nouvelle-Aquitaine est certainement la ligue la plus faible de France en termes de foot, hein, puisqu'on n'a aucun club de haut niveau hormis les Girondins qui sont aujourd'hui en Ligue 2 et les Chamois-Niortais qui sont au fond de la gamelle.
Et le Pau FC.
Et le Pau FC, exactement, ouais. Donc je serais content que Limoges voilà, retrouve un petit peu des couleurs et remonte dans les années qui viennent au niveau national. Mais bon, il y a beaucoup de travail à Limoges, c'est difficile, hein. Il y a le basket qui prend beaucoup de place. Aujourd'hui, il y a le hand qui prend beaucoup de place.
Le rugby aussi.
Il y a aussi le rugby. Voilà, c'est difficile. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont impliqués et motivés pour essayer de faire enfin fonctionner un club de manière cohérente. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de qualité chez les jeunes, hein. Toutes les équipes sont en R1 hormis les U14. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, mais il y a tout ce qu'il faut pour réussir à Limoges. Donc bien sûr que moi, pour étant originaire d'ici, je souhaite qu'à terme il y ait quelque chose qui se passe dans le coin.
Bon, forcément, le déplacement à Limoges, c'est un déplacement que tu as forcément coché.
Oui, j'avais regardé tout de suite parce que je connais 90% des joueurs, je connais extrêmement bien l'entraîneur.
Les joueurs que tu as eu chez les équipes de jeunes?
Il y a des jeunes que j'ai pas que j'ai eu à Limoges, mais que j'ai il y en a deux que j'ai fait venir à Limoges qui sont deux petits saints juniaux, deux jeunes de 2004, Joris Verrier et Thau Beausoleil. D'accord. Qui sont des joueurs dont on reparlera, j'en suis sûr, dans les années qui viennent au niveau régional. Ce sont d'excellents joueurs et je connais très bien l'entraîneur puisque je l'ai eu comme joueur à Riac et on a passé notre BE ensemble également.
Donc c'est qui cet entraîneur?
Nessim Luciani s'appelle. C'est un garçon qui est au club depuis une dizaine d'années, hein, en fait, hein, qui s'est beaucoup occupé des jeunes et suite à l'arrêt de Fabien Daguin au mois de décembre, on lui a demandé de prendre le relais et je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eu de le promouvoir.
Vous êtes bien sur Attitude 98.3, 90.7, attitudefm.com. Merci de votre fidélité. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h, 20h30, nous retrouverons Christian qui répond aux questions de Vincent Villedieu.
Avant de revenir pleinement sur Conflans, j'aimerais quand même ton avis, toi qui du coup connais désormais les deux foot départementaux, 87 et 16. Alors forcément, bah, le 87 c'est quand même un département plus grand, j'ai l'impression que la Charente. Ouais. Quel est ton avis sur les deux footballs? Pas forcément pour comparer les niveaux, mais j'imagine qu'il y a des spécificités différentes.
Ouais, pas tant que ça en fait. Moi, je trouve que en termes d'organisation, je trouve que le district de Charente fonctionne mieux. Voilà. Ils sont alignés sur la plupart des autres départements. Le district de la Haute-Vienne, c'est un petit peu différent. L'année dernière, ils avaient fait, c'était le seul dans la ligue, hein, qui avait dû faire ça, 2 poules de 10 en première division de district, alors que toutes les autres, là, compte tenu des problèmes liés à la Covid, avaient fait des poules de 14. Je trouve qu'il n'y a pas toujours de la cohérence en Haute-Vienne. Voilà, je trouve que les compétitions sont globalement mieux organisées en Charente. Après, en termes de foot, je trouve pas qu'il y ait de grandes différences. L'année dernière, on était face à une équipe qui était très très au-dessus, mais bon, dans tous les départements, c'est comme ça. Moi, j'ai connu en Haute-Vienne aussi en première division des équipes qui étaient quand même très dominatrices. Donc voilà, il y a pas trop de différences à ce niveau-là. Mais je trouve que globalement, en termes d'organisation, c'est un petit peu mieux. En deuxième division, il y a 3 arbitres. Voilà. Et puis en Charente, on s'intéresse quand même au foot départemental. Hein. Je fais un petit clin d'œil à la Charente Libre. Il y a des années que dans le populaire du centre, il y a à peine le résultat des clubs de R2 dans le popul le lundi matin. Quand Charente Libre jusqu'à la deuxième division, tous les matchs, il y a
un petit résumé.
Résumé, ça.
Et puis moi désormais, il y a aussi les étoiles Charente Libre.
Ouais. Et moi qui suis un passionné moi qui aime ça, qui aime le foot, les lundis matins, moi j'achète la Charente Libre parce que voilà, il y a encore des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans les petits clubs, et que ce soit à Nersac ou à Fontafi, enfin Fontafi peut-être pas encore cette année, mais ou à Bel Air, il y a des reportages, et moi je trouve ça super.
D'ailleurs, l'entraîneur Bel Air, du coup, je l'appelle tous les dimanches pour récupérer son petit résumé. Ouais. Après, c'est un entraîneur que je connais bien, parce qu'il a joué à la CFC quand Angoulême était en DH. Et pour terminer sur le 87-16, ce qui manque désormais au 87, finalement, c'est une locomotive.
La CFC est une locomotive en Charente, je pense. À Limoges, voilà, on espère que, enfin moi j'espère que dans les années qui arriveront, Limoges sera en capacité de le faire, hein. Limoges ou un autre, mais bon, je pense que Limoges c'est le mieux armé. Malheureusement, aujourd'hui, on se bat avec trois équipes en division d'honneur qui jouent les premiers rôles globalement, enfin hormis Lille qui est un petit peu plus en difficulté, oui. Mais voilà, où les joueurs vont d'un club à l'autre, d'une année à l'autre, voilà, c'est pas trop, c'est quand même. Je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est comme ça.
Pour en revenir sur Confolant, moi j'aimerais parler aussi de la saison dernière où vous étiez donc en D1 et vous faites une super saison. Alors certes, oui, Saint-Alex aussi a fait une super saison. Je crois qu'ils ont pas perdu de match, ou ils ont peut-être perdu un ou deux.
Ils n'ont pas perdu de match. Non, c'était une équipe qui était très au-dessus, très au-dessus.
Donc finalement, ça a peut-être occulté un peu votre belle saison, mais vous, vous faites une super saison dans des filières différentes, parce que vous aviez une défense de fer. Final, c'est vrai que par rapport à la montée, le suspense a rapidement été
Oui, parce qu'à 5 matchs de la fin, on était assuré de monter. Ouais, on a été extrêmement régulier. Bon, hormis les 3 derniers matchs où il y avait beaucoup de relâchement de notre part, mais sur toute la saison, on était très très régulier et voilà. Et on avait cette solidité qu'on a retrouvée pour partie depuis le mois d'octobre, depuis fin octobre. Et voilà, c'est ce qui faisait notre force. L'année dernière, on était difficile à bouger, c'était difficile pour les équipes adverses de marquer des buts. Donc c'était bien. Il y a un gros regret quand même sur la saison dernière, c'est que on a eu ce petit couac en demi-finale de Coupe de Charente.
Oui.
Où on avait la possibilité, je pense, de nous qualifier face à Moutier, qui avait fait un très bon match contre nous, et on n'avait pas, malheureusement, pas réussi à le faire. Et voilà, ça aurait été formidable pour le club, et de faire une montée plus une victoire en coupe. Bon, c'est comme ça. Donc il y a eu beaucoup de déceptions chez les joueurs et voilà, chez nous tous en fin de saison dernière, mais globalement c'était une saison très réussie. Oui, tout à fait.
Au début de cette saison, l'objectif c'était de remonter en R3, ou au final
on avait dit, quand je suis arrivé, Florent on avait il m'avait dit ce que j'en pensais. Je connaissais personne, en fait. Moi, j'avais dit, tablons sur 3 années, essayons de voir ce qu'on peut faire sur 3 années avec un projet. Le projet, en fait, au-delà d'un projet de jeu, le projet, c'est de ne faire jouer que des gens du territoire. Donc ça, c'était une première chose. Hein. C'est difficile de faire venir des gens de l'extérieur. Et après tout, on forme des jeunes garçons dans un groupement de jeunes là qui s'appelle le GJLAC. Et promouvoir tous ces gamins là qui sont bien formés, et voilà, leur donner envie de défendre les couleurs du Confolentais. Donc voilà, ça c'était la première idée. Donc j'avais dit, allez, 3 ans, et puis il s'avérait que l'année dernière ça s'est plutôt bien passé pour que rapidement on puisse se dire, il y a peut-être la possibilité de le faire dès cette année. Donc voilà, maintenant il faut qu'on reste à ce niveau là
C'est ce que j'allais dire, oui. Une montée, c'est bien. Maintenant, il faut pas faire l'ascenseur, ce qui avait été le cas de Confolant lors de leur dernière
saison. C'est ça. Exactement.
C'est d'ailleurs à l'issue de la descente que tu avais repris le club?
Non. Ils ont, je sais plus en quelle, ils ont dû descendre en 2018, peut-être.
Oui.
Et moi, je suis arrivé en 2020. Donc, je suis arrivé, après l'arrêt des champions, enfin sur la saison où le championnat s'est arrêté en mars.
Oui, donc au final ça n'a même pas été une première saison, puisque vous avez fait à peine
4 matchs. La première saison j'ai fait 4 matchs. Oui, on a fait 4 matchs de championnat.
Donc au final on peut considérer votre montée comme l'année 1 pratiquement.
Oui, c'est presque ça. Même si la première année, quand même si on n'a pas beaucoup joué, on s'est constamment entraîné. C'est-à-dire que on n'a évidemment pas le droit de s'entraîner les soirs, oui. Mais on avait la possibilité de le faire les samedis après-midi. Donc on s'était entraîné quand même très très régulièrement, enfin tous les samedis pendant toute cette période noire là, de octobre voilà, où il n'y avait pas de compétition, on se retrouvait quand même toutes les semaines, et ça nous avait permis de créer des liens, créer des affinités, puis de s'entraîner, trouver quelques principes pour essayer de bien fonctionner ensemble. Donc voilà, je pense que ça nous a aidé quand même cette année.
Oui, puis au final, ça t'a permis de plus découvrir le groupe et de mieux connaître les joueurs encore.
Exactement. Ça avait permis ça. Et puis qui me découvre aussi.
Bien sûr.
Parce que moi j'arrivais, les gens disaient c'est qui ce petit bonhomme là qui arrive là, qui crie fort et qui voilà.
Cette année en R3, on avait un peu parlé en début d'émission, mais donc le classement est morcelé en deux grosso modo. Il y a quatre équipes qui dominent la poule, donc là, c'est-à-dire la réserve de Panazol, Ruffec, Noyer et Limoges.
Et Limoges.
Ouais. Et derrière il y a du coup du 5e au 12e, ce qui fait 8 équipes je crois. Et bien du coup c'est tout le reste, donc avec deux descentes actées et puis potentiellement trois descentes actées et puis potentiellement après les moins de 9e.
Voilà, exactement. Donc c'est un championnat qui est difficile. Je trouve qu'on est dans une poule. Enfin, il y a deux compétitions, mais dans cette poule de 8, en fait, je trouve qu'il y a de l'homogénéité. Il n'y a pas d'équipe qui se dégage énormément. Voilà, il y a des équipes qui sont un peu plus en difficulté. Hein. Je pense à Husson, et Vic-sur-Gartempe.
Oui.
Qui pourraient être des équipes en difficulté, mais c'est des équipes qui ont quand même quelques valeurs et quelques atouts aussi. Donc je trouve que c'est une poule plutôt homogène. Je vois la différence. Je m'intéresse un petit peu à toutes les autres poules. Et notamment sur la partie Limousin, c'est catastrophique. Il y a des forfaits. Si vous allez à l'ASPO de Brive, si vous allez à Orange-Roussillon, c'est un club qui a fusionné à Limoges, l'ancien Saint-Louis-Val et Limoges-Roussillon qui ont fusionné. C'est des équipes. On ne sait même pas si elles finiront le championnat. C'est catastrophique. Des clubs à Peyrat-la-Nonière du côté de Vassivière là-bas, c'est catastrophique. Je trouve qu'on est dans une poule difficile et qu'il va falloir tous les dimanches jusqu'à fin mai donner à chaque fois le meilleur de nous pour nous en sortir.
Ouais, c'est aussi d'ailleurs le cas dans la poule des Charentais, je l'appelle comme ça parce qu'il y a 6 Charentais dans la poule avec Thénon Limera qui a -1 au classement.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Donc c'est vrai que à la fois c'est presque deux victoires assurées entre guillemets, mais c'est vrai que tout le monde prend des points contre ces équipes-là, donc au final c'est comme si elles n'étaient pas là pratiquement.
C'est ça. Enfin, moi j'ai pas gagné à Vic-sur-Gartempe. On n'a pas gagné à Vic-sur-Gartempe. C'était la première journée.
Oui, 0-0 exact.
Alors, on avait fait 0-0.
Ça, c'est des points peut-être qui pourraient compter sur la fin de saison.
Ça peut compter, mais Vic-sur-Gartempe, c'est une équipe qui a pris quand même 9 points. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas nul non plus. C'est une équipe qui est allée faire 0-0 à Limoges par exemple. Vic-sur-Gartempe. Donc c'est un point qu'ils ont pris là-bas qui pourrait coûter cher en fin d'année, on sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'homogénéité quand même globale dans la poule.
Saint-Benoît, c'est une équipe qui est quand même habituée au niveau ligue, qui est souvent en PL R3. Finalement, ce match, alors on rappelle hein, ce match, donc il a eu lieu début octobre, c'était la troisième journée. Donc vous aviez pris un point sur les 3 premiers matchs. Finalement, ce match-là, il a servi un peu de déclic, parce que derrière, vous recevez Limoges, vous perdez 3-0, mais plutôt bien dans le jeu. Et puis derrière, vous avez à peu près le même parcours que les 4 premiers. Donc finalement, de prendre cette claque, ça...
Oui, je pense que ça nous a fait du bien. Il y avait peu de joueurs avaient joué au niveau régional, hein, puisque leur petite expérience de l'année 2017-18, je crois, si 2016-2017, je ne veux pas dire de sottises. Il y avait quelques joueurs qui avaient participé, mais pas beaucoup. Donc peut-être qu'il a fallu, s'habituer au niveau, même si c'est pas forcément un niveau exceptionnel, mais il y a des équipes certainement plus prêtes que nous au mois de septembre, et voilà, il fallait que nous on prenne nos marques, et voilà, il a peut-être fallu prendre cette grosse claque pour que on se dise on fait quoi, est-ce que on tend l'autre joue ou est-ce qu'on essaie de faire autre chose, et voilà, donc on a heureusement pris la deuxième possibilité, ça va mieux, mais encore une fois rien n'est terminé, et ça sera difficile pour les 8 équipes de se faire une place en régional la saison prochaine.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour faire un petit point sur vos matchs contre ces équipes-là, donc vous allez recevoir Bessines-Morterolles, vous allez à Nieul-l'Espoir, vous recevez Aix-sur-Vienne.
On reçoit Vic-sur-Gartempe et on reçoit Usson.
Donc c'est quand même, il y a quand même beaucoup de matchs chez vous contre ces concurrents directs.
Mais si on regarde notre parcours en championnat depuis le début de saison, on a gagné une fois.
Oui.
Donc voilà. Donc.
Ouais, mais peut-être parce que t'as reçu les gros, non ?
Oui, j'ai reçu. Oui. J'ai reçu Ruffec, j'ai reçu Panazol, j'ai reçu Limoges. Oui, on a reçu toutes ces équipes-là. Oui. Et on n'était pas passé au travers contre le Viginal. Au Viginal, on avait 2-0 chez nous au match aller.
Oui, exact. Et d'ailleurs, vous avez gagné au match retour.
Ouais.
D'ailleurs, Limoges-Viginal, petite parenthèse, c'est vrai que sur les années 2000, on va dire 2010, 2013, on m'a toujours dit que Limoges-Viginal, c'était super chaud là-bas. Quand le ballon passait la main courante, bah c'était compliqué d'aller pouvoir le récupérer. C'est un club qui a fusionné, il me semble, avec Viginal et la Bastille. Et
Viginal, cette fusion s'est cassée il y a il y a 5 ans, 6 ans, et en fait ils sont repartis eux-mêmes.
Est-ce que c'est toujours aussi chaud maintenant qu'à l'époque?
Alors cette année, ça a été très gentil puisque on leur refait un terrain. Ils vont avoir un terrain synthétique avec des installations remarquables. Dernier cri, ils vont avoir un truc formidable. Il y en a pour 1 400 000 €, ce qui va se faire à Limoges. Je t'enverrai le lien si tu veux.
Oui.
Donc, ils jouent à Buxerolles sur le terrain de la SPTT cette année.
D'accord.
Donc, ils jouent pas dans leur quartier. Donc, il y a un petit peu de bruit, mais il y en a moins que quand on est au milieu des immeubles.
D'accord. Et d'ailleurs, sans transition, mais c'est vrai que votre début de saison, je le rappelais tout à l'heure, un point pris sur les 4 journées. Tu penses que c'est vraiment le fait de s'adapter à ce niveau ligue qui était un peu différent de la D1 qui a fait que vous avez un peu démarré à rebours?
Ouais, peut-être. Alors, on avait à Vic-sur-Gartempe, c'est un match qu'on aurait pu, je dirais, même dû gagner. On a été particulièrement maladroit. Alors, on avait joué sur un terrain qui n'en était pas un, mais c'était le même pour les deux équipes. On avait été très très maladroit. On avait on a toujours de toute façon cette carence offensive qui est très importante. Hein. On a eu cette problématique à Vic-sur-Gartempe. On a eu cette problématique offensive contre le Viginal où on a eu des situations de marquer des buts et pas qu'un. Et malheureusement, on avait été pris par leur engagement, leur filouterie, je dirais, ils avaient peut-être ce petit vécu que nous on n'avait pas, mais c'est surtout parce qu'on a un gros souci offensif aujourd'hui que ça nous a causé quelques petits soucis quand même.
Oui, parce que c'est vrai que ne pas encaisser de but c'est bien, mais il faut quand même en marquer quelques-uns pour
faire la différence. De temps en temps, c'est bien d'en marquer.
Oui, ça fait. Et paradoxalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de 0-0 cette année pour vous.
Non, il n'y a pas beaucoup de 0-0 puisqu'il y a 1-0-0, il y a 2-0-0. On a fait 2-0-0 contre Vic-sur-Gartempe et contre Panazol.
D'ailleurs, tu parlais de ton groupe, tu nous disais qu'il avait 25 ans et que certains avaient connu la R3 donc il y a quelques saisons. Mis à part ça, c'est un groupe qui découvrait cette division?
Oui. Pour la plupart, je fais jouer de jeunes joueurs. Hein. Il y a des joueurs de 2004, de 2005 qui jouent avec nous. Donc, ce sont des jeunes joueurs qui découvrent le niveau régional. Oui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué à ce niveau-là, hormis les frères Dupont qui ont 23 ans. Quentin Gémeaux que j'avais eu à Limoges, qui a joué un bon niveau régional chez les jeunes. Voilà. Après, il y en a pas beaucoup. Guillaume Boursier, qui a un petit parcours en avec l'équipe Fagnon de Confolens. Mais sinon, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup.
Quand c'est comme ça, du coup, il faut vraiment se mettre au niveau le plus rapidement possible. Toi, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour que ça
tout en restant, il faut rester évidemment notre place. Moi, j'ai dit que le foot, je leur dis souvent que le foot, c'est un plaisir et que c'est pas parce qu'on joue à un petit niveau qu'il faut pas faire un peu de compète et qu'il faut pas être un petit peu exigeant avec soi-même. Donc, je leur demande d'être exigeant dans ce qu'ils font. Voilà. S'ils s'investissent dans quelque chose, de le faire avec de l'implication, de la détermination, mais aussi un peu de recul avec les choses, mais essayer rapidement de trouver les bons leviers pour se mettre au niveau.
Voilà. Oui, et puis c'est vrai que parfois les promus, ça surfe aussi sur les bonnes
spirales. Ça surfe sur une dynamique, mais comme on avait en fin de saison dernière, excuse-moi de te couper, mais en fin de saison dernière, comme on était monté à 5 journées de la fin, il y a eu un relâchement important. J'avais dit qu'il fallait tout le temps garder et qu'on pouvait surfer sur une dynamique positive dès lors qu'on finissait bien les saisons. On l'a fini. En roue libre, pour pas dire autre chose.
C'est la Coupe de Charente où il y a la déception.
Voilà, et on l'a fini plus qu'en roue libre. Et finalement, je pense que ça nous a desservi sur les premières rencontres.
D'accord. Et est-ce que tout à l'heure, tu nous parlais de ton parcours d'entraîneur, PH. Est-ce que tu avais croisé Confolant, toi, en tant qu'entraîneur?
Jamais.
Parce que Confolant, même, ils ont, dans ces années 2010, ils étaient DHR.
Ouais, je n'ai jamais joué contre Confolant. J'ai joué un match contre Confolant. J'étais venu faire un match amical à la fin des années 90, un soir de festival. On était venu, on avait un dirigeant, je jouais à Riac-Rancon, et on avait un dirigeant qui connaissait quelqu'un de Confolant. On était venu faire un match amical. C'est la seule fois que j'avais joué Confolant. Je les avais jamais joués en championnat ni en coupe. Jamais.
D'accord.
D'ailleurs, pourtant, j'ai joué de 4, j'ai commencé à jouer en senior en 1988, donc j'avais 16 ans, en promotion de ligue, à Roi-d'Or-sur-Glane, jusqu'en division d'honneur à la GIA Hill, et j'avais jamais joué Confolant. Comme quoi.
Mais d'ailleurs, Confolant, il me semble qu'ils sont friands des entraîneurs du 87, parce que lorsque Pascal Chavaroche arrête, il me semble que derrière ils prennent Damien Coutant, et il me semble que Damien Coutant était aussi du 87, si je dis pas de bêtises.
Ouais, moi je le connais pas, enfin juste comme ça de nom, je le connais pas. Ça, je crois que ça s'était pas bien passé pour lui, je pense qu'il avait eu un petit souci, lui. Mais je le connais pas.
Oui, c'est à l'époque où Confolant était en DHR, donc le niveau était
en DHR, DHR, ouais. C'était pas Florent Gémeaux, le président. À l'époque, c'était une dame, je crois, qui était présidente.
Ouais. Et d'ailleurs, moi, je salue Stéphane Chambre, parce que on faisait beaucoup d'articles ensemble. Lui, il était pour la Charente Libre à l'époque.
Ouais. C'est quelqu'un de très bien, Stéphane, qui est d'une implication incroyable pour le club, hein. Au même titre, ça, je veux le mettre aussi en avant. Et Stéphane s'implique beaucoup avec le GJ Lac. Bon, il travaille pour la mairie de Confolant, mais pour le club, il est exceptionnel. Mais j'ai des joueurs qui sont, éducateur de jeunes, j'ai Tom Coquen qui est trésorier du club, qui trace les terrains avec mon gardien de but Dylan Garguin, avec Guillaume Boursier qui est secrétaire du club, je pourrais tous les nommer parce que ils s'impliquent tous. Fabien Decron qui s'occupe des jeunes, ils ont tous une implication pour ce club que j'ai rarement vu ailleurs. Et ça, c'est génial.
C'est vraiment ce qu'on appelle un club familial. Et
c'est exactement ça.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu sur le site du district que Stéphane Chambre, il était RTJ du club. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette alliance de jeunes? Quel club ça regroupe les résultats?
Ouais, ça regroupe trois clubs. Hein, le FC du Confolanté, ça regroupe Abzac et les SAC. Donc, évidemment que ce groupement-là doit servir à l'ensemble des clubs. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, mais ça, c'est c'est un petit peu par chauvinisme ou parce que j'ai plus de sensibilité par rapport à Confolant. On souhaite évidemment que les meilleurs jeunes qui sont formés dans ce groupement puissent porter les couleurs du FC Confolanté. Mais c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'implications. Avec les éducateurs, des éducateurs hein, dans ce club, dans ce groupement, et bon voilà, y a, la majorité évidemment vient du FC Confolanté, mais moi je pense que ça doit servir à tout le monde malgré tout, mais c'est quelque chose de très bien parce qu'aujourd'hui, est-ce que Confolant sera en capacité d'avoir des équipes dans toutes les catégories seules?
Oui.
J'en suis pas sûr, comme je suis absolument certain que Abzac et les SAC n'en auraient pas s'il y avait pas ce groupement.
Bien sûr, au final, c'est vrai que pour le territoire du Nord-Charente, c'est une bonne nouvelle d'avoir fait ce groupement.
Ah ben oui, je pense que c'est indispensable, mais bon, c'est des problématiques que Stéphane avait certainement bien mesurées avec les gens qui ont décidé de créer ce groupement il y a quelques années.
Nous retrouvons Christian, que j'ai interrompu brutalement et que je remets aux mains de Vincent. Christian, c'est à toi.
Oui, non, juste, je voulais faire juste une parenthèse sur les SAC. C'est vrai qu'il faut aussi, ils sont également promus en D1 et ils font un très beau parcours pour l'instant.
Ils ont un entraîneur qui est extrêmement expérimenté.
Ah bah tout à fait. D'ailleurs, Pascal Chavaroche, qui est aussi un nom qui est important du côté de Confolant. Est-ce que Pascal vient parfois vous voir? Est-ce que tu as pu échanger avec lui?
Non, on s'est parlé une fois ou deux. Non, non, non. je le connais pas particulièrement. Par contre, voilà, je trouve qu'il a un parcours dans le foot régional qui est quand même reconnu.
Oui. Et puis voilà. Il a même coaché la ZAC en national.
Oui. Donc non, c'est quelqu'un qui a un fort vécu, bien supérieur au mien du reste. Et voilà, et partout où il passe, il fait quand même, il a quand même. Donc voilà, aujourd'hui à l'ESA qui fait avec beaucoup d'anciens confolantés, hein, avec une équipe très expérimentée, voilà, ils font plutôt un bon championnat. Mais je m'intéresse pas trop à ce qui se passe à l'ESA, hein, en fait, hein, pour être honnête.
On va parler du district alors, mais on va parler de votre équipe réserve, du coup, qui est première en troisième division.
Qui est entraîné par Stéphane Chambre, hein, puisque c'est Stéphane qui a pris l'équipe cette année.
Ah ben bravo à lui alors du coup.
Voilà, donc
l'ambition c'est de la faire monter en D2.
Ah oui, absolument. L'année dernière, on est passé à deux doigts parce qu'on a fait une bêtise avec le règlement. Voilà, et cette année c'est vraiment important que l'équipe réserve puisse grimper pour garder un écart minimal avec l'équipe première, parce que ça reste voilà, pour pouvoir entraîner tout le monde, hein. Globalement on a un groupe très homogène, et l'idée c'est de resserrer les niveaux comme ça pour pouvoir avoir un maximum de possibilités pour que tout le monde puisse prendre du plaisir, que ce soit en R3 ou en deuxième division, si par chance on pouvait y accéder.
Oui, en tout cas ils ont une grosse poule parce que Fontafi a fait un super parcours en Coupe de France la saison dernière. Et puis ils sont toujours invaincus d'ailleurs en championnat, ils font beaucoup.
C'est ça.
Et il y a aussi Brigueuil-Lesté. Ça je connais moins, j'avoue, mais
ils ont beaucoup d'anciens Saint-Junio, donc j'en connais quand même un certain nombre qui ont joué un petit peu au niveau régional, donc voilà, mais je pense que globalement on est les mieux armés pour obtenir l'accession.
Oui, le groupe de Stéphane, c'est aussi un groupe relativement jeune.
Ouais, c'est jeune, c'est très jeune, avec un ou deux anciens qui ont évolué un petit peu avec moi la saison dernière et qui sont aujourd'hui un petit peu les locomotives de cette jeunesse en réserve. Ouais, mais y a de la qualité, ouais, pour jouer en troisième division, il y a de bons gamins, il y a de bons mecs, et puis bon voilà, avec Stéphane ils sont entre de bonnes mains, ils font de vraies séances d'entraînement, voilà, il y a pas beaucoup de clubs en troisième, enfin pas beaucoup d'équipes de troisième division qui s'entraînent comme notre réserve le fait.
C'est vrai que si jamais, et puis c'est ce qu'on espère d'ailleurs, qu'il y aura maintien en R3 et une montée en D2, ben la saison sera vraiment réussie, et puis
voilà, c'est ça.
R3 D2, c'est vraiment, ça commence à devenir vraiment intéressant en termes de niveau. Et en termes d'écart de niveau surtout.
C'est ça. Nous, c'est ce qui est très important, évidemment, que l'équipe première soit en capacité de rester à ce niveau-là, au niveau régional, parce que le club a clairement les moyens de rester à ce niveau-là, et évidemment de faire monter l'équipe réserve pour que voilà, y ait tout le monde soit entraîné vers le haut, soit tiré vers le haut. C'est ça, c'est un peu l'idée.
À ce sujet-là, Vincent, est-ce qu'il y a des entraînements communs entre la première et la B?
Absolument. Le mercredi, globalement, on s'entraîne ensemble. On a beaucoup d'assiduité, puisqu'on a quasiment 25 joueurs de moyenne à l'entraînement, même le mercredi, hein, même si y a des mecs, j'ai des joueurs à Poitiers, les gens font l'effort de revenir. Donc ça c'est remarquable. Le vendredi c'est plus simple parce qu'il rentre à la maison, mais on a beaucoup de monde à l'entraînement. Donc le mercredi c'est une séance qui est faite en commun.
Et ça tire le groupe vers le haut, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis voilà, et on fait pas de différence. Voilà, il y a pas de joueurs qui sont laissés de côté. Même il y a des gens de l'équipe 3 qui viennent s'entraîner. Ils sont évidemment accueillis avec le même plaisir que tous les autres.
C'est bien d'ailleurs d'avoir autant de présence, ça veut dire que tout le monde tire dans le même sens et que tout le monde est impliqué dans le projet, dans le club.
C'est ça. Alors là, il y a une période qui est un petit peu plus délicate, mais globalement...
Surtout qu'en plus, on sort d'une période hivernale où...
Ouais, c'est ça, donc là, c'est un petit peu plus délicat, mais parce qu'en plus, on avait eu quelques soucis pour s'entraîner avec ces problématiques d'éclairage et de coûts de l'énergie.
D'ailleurs, je te coupe, mais comment du coup vous faites pour vous entraîner? Vous avez remis
Là, on peut de nouveau s'entraîner à la Tulette, normalement, donc sur le terrain annexe. Donc, okay. Voilà, puisque voilà, il y a une possibilité de modifier certaines choses en termes d'abonnement. Et, voilà, donc après, c'est des choses que la mairie maîtrise mieux que moi. Donc, je sais que maintenant, depuis la semaine dernière, on a le droit de s'entraîner normalement et de retrouver normalement notre terrain d'entraînement. Donc, c'est bien.
Ouais, c'est bah du coup ça te remet dans les conditions pour performer.
C'est ça, exactement.
Et sinon, donc vous faisiez comment alors la semaine précédente ?
Eh ben on avait la chance quand même de pouvoir donc dans le Confo Lantais, il y a une commune qui s'appelle Es qui est juste à côté et ouais. On avait cette possibilité de s'y entraîner.
D'accord, avec eux voilà. qui disposaient d'un éclairage du coup.
Ouais, un éclairage, voilà. C'était pas la panacée, mais on avait au moins la chance d'avoir ça et c'était déjà beaucoup.
Donc, ouais, parce que cette histoire d'éclairage, finalement, c'est beaucoup plus perturbant pour les entraînements parce que qui en Charente peut se faire des entraînements la journée à part la CFC,
c'est ça.
En N2 et quand les joueurs ne font que du foot.
C'est ça, exactement.
Vous, le dimanche après-midi, c'est concevable, mais s'entraîner l'après-midi.
Voilà, le jeudi après-midi, c'est pas possible.
Ah oui, tout à fait.
C'est ça. Donc voilà. Donc, mais la mairie avait. Alors ça nous a causé quelques petits soucis d'organisation, mais la mairie avait quand même su, je pense, anticiper un certain nombre de choses que d'autres communes en Charente, notamment, puisque je suis sensible à ce qui se passe aujourd'hui en Charente. Se mettre à essayer de mettre en place aujourd'hui hein, parce qu'ils se retrouvent avec les mêmes difficultés hein, que tout le monde hein, avec des coûts d'énergie qui explosent hein, donc, ceux qui n'ont pas anticipé pourraient être embêtés dans les semaines qui viennent.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu parlais de ton équipe C. L'équipe C est en quelle division ?
Elle est en 5e division.
D'accord, ok.
5e division, ils font un championnat honorable puisqu'ils sont dans les 3 premiers, je crois. Voilà, donc c'est pas toujours facile de trouver les joueurs, si, mais des gens pour accompagner, pour faire la touche, pour arbitrer, parce que là, par contre, en 5e division, il n'y a pas toujours d'arbitre. Mais. Il y a un garçon qui s'appelle Emmanuel Serre qui est très impliqué pour cette équipe et voilà, à chaque fois il y a des solutions, il y a des joueurs, les joueurs de l'équipe première quand ils jouent pas ou d'équipe réserve quand ils ne jouent pas, eh bien un petit appel sur les réseaux sociaux et on trouve un arbitre. Donc ça c'est bien et ça fonctionne plutôt pas trop mal.
Bon, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que la C est en 5e et la B en 3e, eh bien il peut même y avoir 2 montées en fin de saison.
C'est ça.
Alors là, je demande trop, je me demande peut-être.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Non, il y a Tapona est bien classé pour monter.
D'accord.
Voilà.
Et là, c'est d'ailleurs, elle a le droit de jouer la Coupe des réserves, non, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ils ont été éliminés en Coupe des réserves dès leur entrée en lice. Je veux pas dire de sottises, mais je crois que c'était contre l'Élan Charentais. Mais je crois que c'est ça.
Et puis malheureusement, votre B a pas su vous venger entre guillemets en coupe.
On était, ils sont tombés sur un temps dantesque un samedi soir à Fontafi en tout début d'année sous une pluie terrible avec des conditions de jeu pas faciles et voilà la motivation des joueurs de Fontafi a fait la différence.
Ah oui, en plus c'était un derby de Détroit.
C'est ça.
Après Fontafi, c'est vrai que depuis l'an passé Coupe de France, on a beaucoup parlé d'eux, je crois qu'ils sont allés au 5e tour contre Timonien. C'est vrai que c'est une équipe de coupe donc
ouais, c'est ça. Donc on n'a pas su se mettre au niveau et voilà, donc c'est
et c'était effectivement l'Élan Charentais en Coupe des réserves au pénalty.
Ouais, c'est ça. Ouais, au pénalty exactement.
Un partout score final.
Exactement.
Équipe de France qu'on faut lancer même combat.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, moi, je le répète à chaque émission, pratiquement, quand on reçoit des clubs de football, mais moi, je suis admiratif des joueurs, notamment de la première ou de la réserve, qui entraînent les jeunes, parce que pour moi, c'est vraiment une synergie.
Mais c'est des choses. Moi, je suis.
C'est des choses que tu vois aussi dans le 87.
Oh, mais moins. Il y en a, bien sûr, mais moins. Enfin, en tout cas, ce que je vois à Confolens. C'est remarquable et j'ose croire hein, que dans les autres clubs c'est pareil, mais à Confolens c'est des choses qui moi je suis un peu par moment je me dis j'en ai un peu marre et tout parce que ça demande quand même de l'implication, ça commence ça demande pas mal de choses hein, de s'occuper d'une équipe, même à nos petits niveaux. Et me dit des fois, bon voilà, il est peut-être temps de passer la main. Mais cette implication, pour le club, pour le bon fonctionnement du club, ça me donne envie de. Je me dis, mais non, tu peux pas laisser des gens comme ça s'ils souhaitent que tu continues, mais continue avec ces gens-là, c'est simple en fait.
Et puis ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que le joueur qui entraîne les jeunes la semaine ou les matchs le samedi matin, eh bien, le jeune vient voir son éducateur le soir et il n'a Dieu que pour lui au final.
Exactement, exactement.
Alors d'un côté, faut pas s'arrêter sur le terrain, mais d'un côté, bah ça fait que finalement toutes les générations du club se côtoient le samedi soir lorsque vous avez des matchs.
Oui, absolument, absolument. C'est ça, c'est exactement ça.
Et donc, forcément, c'est aussi le club qui vit.
C'est ça. Il y a un loto là dans aux prochaines vacances scolaires.
On peut annoncer la date, non?
Voilà. Donc, 11, 12, 13 avril, mardi, mercredi, jeudi. Est-ce qu'on peut être sûr de ça? Voilà, mardi, mercredi, jeudi, il y a le stage des jeunes organisé par le FC Confolenté, donc pendant 3 jours à Confolent, avec tous ces éducateurs qui sont présents, qui prennent sur leur congé annuel pour venir s'occuper des gamins pendant 3 jours.
Donc c'est un stage ouvert à tout le monde, pas seulement les adhérents.
Aux licenciés du club.
Aux licenciés du club, d'accord.
Licenciés du club. J'en profite aussi pour dire que au mois de mars, le 4 mars. Il y a le concours de belote, toujours pareil, organisé par les dirigeants avec beaucoup d'implication de la part des joueurs, donc ça c'est génial.
Vincent, à propos de tissu local, est-ce que vous avez des passerelles avec des établissements scolaires?
Aujourd'hui non, ça se fait pas. Peut-être que à terme Stéphane saurait, mais ça c'est Stéphane Champ qui saurait mieux répondre à ça que moi. Peut-être qu'à terme lui intervient. Alors je sais pas si c'est dans le cadre je pense pas que ce soit dans le cadre du club, mais peut-être plus dans son domaine d'activité à la mairie de Confolent, où il doit intervenir un petit peu dans les écoles, mais le club aujourd'hui pour l'instant ne le fait pas.
Combien de jeunes footballeurs dans ce groupement de clubs à peu près?
Là, je dirais une sottise. Je sais pas. Là, je dirais une sottise. J'ai pas les chiffres. Je vous dirais une sottise, mais peut-être une centaine d'enfants. Je sais. Là, j'ai peur de vous dire une grosse bêtise. Ouais.
Et donc, ça va de quelle catégorie d'âge à...
U6 à U16, U18.
Ah oui. Donc, toute l'école de football.
Toutes les catégories sont représentées.
Vincent, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
De nous maintenir. Voilà.
D'accord. Merci d'avoir accepté notre mission, Vincent. Donc,
avec plaisir.
Je te donne rendez-vous sur les ondes lundi. Je t'ai envoyé.
Merci de votre gentillesse. C'était une première pour moi. Donc,
c'est et voilà. Et puis bon courage pour l'entraînement.
Merci beaucoup. Ça devrait. C'est du plaisir. Hein. Là, il n'y a pas de problème là-dessus.
Oui, et puis les joueurs courent plus que le coach.
Ouais, mais sur les séances d'entraînement. Par contre, je crois pas qu'il court autant que moi aujourd'hui, parce que je suis un passionné de course à pied.
D'accord.
Et ça, c'est pour la petite anecdote. Ça fait 9 ans que je me suis mis à courir comme ça, et c'est devenu une très grande passion. Et je prépare pour la deuxième année consécutive le 100 km de l'ultramarin à Vannes. Donc c'est un petit truc.
Bravo.
Donc voilà, donc je suis pas. Il court plus que moi sur le pré.
Parfait.
Avec
Allez,
plaisir.
Au revoir. Je te dis à tout bientôt.
Merci beaucoup.
Bon vent.
Au revoir.
Attitude 98.3 90.7.